Journal d'un écrivain, 1877, décembre. Chapitre 1. La mort de Nekrassov. Nekrassov est mort. Je l'ai vu pour la dernière fois un mois avant sa fin. Il avait déjà l'air d'un cadavre, et il était étrange de voir ce cadavre parler, remuer les lèvres. Non seulement il parlait, mais il avait gardé toute sa lucidité d'idée. Il ne croyait toujours pas à sa mort prochaine. Une semaine avant d'expirer, il fut pris d'une attaque de paralysie qui immobilisa tout le côté droit de son corps. Il est mort le 27 à 8 heures du soir. Prévenu, je me rendis aussitôt chez lui. Son visage, rendu méconnaissable par la souffrance, me frappa étrangement. En sortant de sa chambre, j'entendis le lecteur de psaumes prononcer distinctement auprès de lui « Il n'est pas d'homme qui ne pêche pas ». En rentrant chez moi, il me fut impossible de travailler. Je pris les 3 volumes de Nekrassov et me mis à les lire depuis la première page jusqu'à la dernière. Je passai ainsi toute la nuit, et ce fut comme si j'avais revécu 30 années. Les 4 premiers poèmes du premier volume parurent dans le recueil de Pétersbourg, qui publia aussi mon premier roman. Et à mesure que je lisais, et j'ai tout lu sans distinction, toute ma vie repassait devant mes yeux. Je me suis rappelé les vers de lui que je lus en Sibérie, quand, après avoir purgé ma condamnation à 4 ans de bagne, je puis enfin toucher à un livre. Bref, cette nuit-là, je me suis, pour la première fois, rendu compte de la grande place que Nekrassov avait tenue dans ma vie, en tant que poète, pendant 30 années. En tant que poète, car nous nous sommes peu vus, et une seule fois, avec un grand sentiment d'amitié, justement au début de notre connaissance, en 1845, lors de la publication des Pauvres gens. J'ai déjà raconté cet épisode. Nekrassov était, comme cela me parut immédiatement évident alors, un cœur blessé dès le début de sa vie, atteint d'une blessure qui ne s'est jamais refermée. Cela explique sa poésie passionnée, cette poésie de martyr. C'est alors qu'il me raconta son enfance. Une vie odieuse qu'il avait menée chez lui. Mais il eut des larmes en me parlant de sa mère, et je vis qu'il y aurait toujours en lui un souvenir saint qui pourrait le sauver. Je crois qu'aucune autre affection, par la suite, n'eut autant d'influence sur lui. Mais certains côtés sombres de son âme se laissaient déjà entrevoir. Plus tard, nous nous sommes brouillés, assez vite même, car notre intimité ne dura guère plus de 2 mois. L'intervention de 2 braves gens ne fut pas étrangère à cette brouille. Après mon retour de Sibérie, bien que nous ne nous soyons pas vus souvent et que nos opinions aient toujours été, dès cette époque, très différentes, il nous arrivait de nous dire des choses que nous n'aurions communiquées à personne d'autre. Il restait entre nous comme un lien depuis notre entrevue de 1845. Quand il m'offrit en 1863 un volume de vers de lui, il me montra un poème intitulé « Les malheureux » et me dit « C'est à vous que je pensais en écrivant cela ». Il avait songé à la vie que je menais en Sibérie. Enfin, dans les derniers temps de sa vie, nous nous revoyons un peu plus souvent, surtout à l'époque où je publiais dans ma revue mon roman « Un adolescent ». Aux funérailles de Nekrassov assistaient 1000 de ses admirateurs. Il y avait là une grande partie de la jeunesse studieuse. La levée du corps fut faite à 9 heures du matin, et il était presque nuit quand on se sépara à la sortie du cimetière. On a prononcé beaucoup de discours sur sa tombe. On a lu aussi une admirable poésie d'un auteur demeuré inconnu. À mon tour, j'ai fendu la foule jusqu'à la fosse encore couverte de fleurs, et très impressionné, d'une voix faible, j'ai, à la suite des autres, prononcé 2 paroles. J'ai commencé par dire que Nekrassov était un cœur blessé, que toute sa poésie, tout son amour pour les souffrances venait de là. Il a toujours été à ceux qui souffraient de la violence, de la tyrannie, de tout ce qui opprime la femme et l'enfant russe au sein même de la famille. J'ai aussi exprimé cette opinion que Nekrassov terminait la série des poètes russes qui nous apportaient une parole nouvelle. Il a eu comme contemporain le poète Tchouchev, qui s'est peut-être montré plus artiste, mais qui n'occupera jamais la place due à Nekrassov. Ce dernier doit être mis tout de suite après Pouchkine et Lermontov. Quand j'eus prononcé ces paroles, il se produisit un petit incident. Une voix dans la foule cria que Nekrassov était supérieur au Pouchkine et au Lermontov, qui n'étaient que des Byroniens. D'autres voix répétèrent « Oui, supérieur !» Je n'avais même pas songé à comparer entre les trois poètes, mais dans un message à la jeunesse russe, M. Skabichevski raconta que quelqu'un, c'est-à-dire moi, n'avait pas craint de comparer Nekrassov à Pouchkine et à Lermontov. Vous avez unanimement répondu qu'il leur était supérieur. J'ose affirmer à M. Skabichevski qu'il s'est trompé. Une seule voix a crié « Supérieur, supérieur à eux !» Et c'est la même voix qui a dit que Pouchkine et Lermontov étaient des Byroniens. Quelques voix seulement répétèrent « Oui, supérieur !» J'insiste sur ce point parce que je vois avec chagrin que toute notre jeunesse tombe dans l'erreur. Les grands noms doivent être sacrés pour les cœurs jeunes. Sans doute le cri ironique de Byronien ne venait pas d'un désir d'entamer une querelle littéraire devant une tombe encore entr'ouverte, mais d'un besoin de proclamer toute l'admiration ressentie pour Nekrassov dans le premier moment d'émotion. Mais cela m'a donné l'idée d'expliquer toute ma pensée. Chapitre 2. Pouchkine, Lermontov et Nekrassov. D'abord, il me semble qu'on ne doit pas employer le mot « byronien » comme injure. Le byronisme n'a été qu'un phénomène momentané, mais il a eu son importance, et il est venu à son heure. Il apparut à une époque d'angoisse et de désillusion. Après un enthousiasme effréné pour un idéal nouveau, né à la fin du XVIIIe siècle en France, et la France était alors la première nation européenne, l'humanité se reprit, et les événements qui suivirent ressemblèrent si peu à ce qu'on avait attendu. Les hommes comprirent si bien qu'on s'était joué d'eux qu'il y eut peu de moments aussi tristes dans l'histoire de l'Europe occidentale. Les vieilles idoles gisaient, là, renversées, quand se manifesta un poète puissant et passionné. Dans ses chants retentit l'angoisse de l'humanité, et il pleura de déception. C'était une muse inconnue encore que celle de la vengeance, de la malédiction et du désespoir. Les cris byroniens trouvèrent partout un écho. Comment ne se fussent-ils pas répercutés dans un cœur aussi grand que celui de Pouchkine? Nul talent, un peu intense, ne pouvait alors éviter de passer par le byronisme. En Russie également, bien des questions douloureuses demeuraient en suspens, et Pouchkine eut la gloire de trouver, au milieu d'hommes qui le comprenaient à peine, une issue à la triste situation de l'époque. Le retour au peuple, l'adoption de la vérité populaire russe. Pouchkine a été le russe par excellence. Le russe qui ne comprend pas Pouchkine n'a pas le droit de se considérer comme russe. N'est-ce pas Pouchkine qui trouva dans son génie prophétique la force de s'exclamer « Verrai-je le peuple libéré et la servitude détruite par la volonté du tsar ?» Je voudrais parler maintenant de l'amour de Pouchkine pour le peuple russe. « Ne m'aime pas, aime ce qui est mien », vous dira notre peuple quand il veut être sûr de votre amour pour lui. Aimer, ou plutôt plaindre le peuple pour toutes ses souffrances, c'est à la portée de tout seigneur, surtout s'il a été élevé à l'européenne. Mais le peuple veut qu'on aime ce qu'il aime, qu'on respecte ce qu'il respecte. Autrement, il ne vous considérera jamais comme un vrai ami, quelles que soient vos démarches en sa faveur. il devinera toujours la fausseté des paroles mielleuses par lesquelles on tâchera de le séduire. Pouchkine, justement, a aimé le peuple comme il veut être aimé. Il ne s'y est jamais efforcé, cela lui est venu naturellement. Il a su, en quelque sorte, se faire une âme peuple. Il a su aussi comprendre la vérité russe, l'adopter comme sienne. Malgré tous les défauts du peuple, ses habitudes parfois répugnantes, il a su connaître les hautes qualités de son esprit, et cela à une époque où les plus affichés des amis du peuple, gênés par leur culture européenne, déploraient la bassesse d'âme de nos moujiks qu'ils désespéraient de voir jamais s'élever à la hauteur de la foule parisienne. Au fond, ces amateurs ont toujours méprisé le peuple. Ils le considéraient comme un ramassis de serfs, excusaient ses faiblesses qu'ils mettaient sur le compte de la servitude, mais ne pouvaient aimer ses esclaves. Pouchkine, le premier, a déclaré qu'un Russe n'était jamais un esclave en dépit de sa servitude séculaire. Il y avait un système esclavagiste, mais il n'y avait pas d'esclave. Telle est la thèse générale de Pouchkine. Rien qu'à l'aspect extérieur, rien qu'à la démarche du moujik, il reconnaissait qu'il ne pouvait être un esclave. Voilà un trait qui prouve chez Pouchkine un réel amour du peuple. Il a toujours su aussi rendre justice à la propreté morale de ce peuple. Nous parlons toujours en général, laissant de côté les exceptions. Il a prévu de quelle façon digne nos paysans accepteraient leur libération. Nos plus éminents Russes européens attendaient tout autre chose des moujiks. Ils aimaient le peuple, mais à l'européenne. Ils insistaient sur ses côtés sauvages et les prenaient très sincèrement pour des animaux. Et ce peuple s'est un beau jour réveillé libre, noble et vaillant, et n'a manifesté aucun désir d'outrager ses anciens maîtres. Oui, beaucoup de bons esprits se figurent encore que l'imparfait développement de notre peuple provient de l'ancienne servitude. N'ai-je pas moi-même entendu dire dans ma jeunesse que le Savelitch de Pouchkine, dans La fille du capitaine, était le prototype du cerf russe et justifiait le servage? Pouchkine n'aimait pas seulement le peuple pour ses souffrances. La pitié peut aller avec le mépris. Pouchkine aima tout ce qu'aimait le peuple et vénéra tout ce qu'il vénérait. Il aima jusqu'à la passion, la campagne, la nature russe. Ils ont tort, ceux qui considèrent Pouchkine comme diminué par son attachement au peuple. Il a trouvé des figures magnifiques. Il a écrit sur lui les choses les plus profondes, et tout cela demeure intelligible au peuple. L'esprit russe, la vraie verve russe, sont partout dans l'œuvre de Pouchkine. Si Pouchkine avait vécu longtemps, il nous aurait laissé de tels trésors artistiques issus du peuple que depuis longtemps notre société, si fière de sa culture européenne, aurait renoncé à ce qui vient de l'étranger pour se retremper dans l'âme populaire russe. C'est cette adoration de la vérité russe que je retrouve jusqu'à un certain point dans Nekrassov, du moins dans ses œuvres les plus fortes. Il m'est cher parce qu'il est l'homme qui pleure sur le malheur du peuple, mais surtout parce que, même aux époques les plus douloureuses de sa vie, malgré tant d'influences contraires et même certaines de ses opinions propres, il s'est incliné devant la vérité populaire. C'est pour cela que je l'ai placé auprès de Pouchkine et de Lermontov. Avant de passer à Nekrassov, je dirai deux mots de Lermontov, afin d'expliquer pourquoi j'ai fait un homme qui, lui aussi, a connu la vérité populaire russe. C'était pourtant un byronien que Lermontov, mais grâce à la puissance de son originalité, ce fut un byronien singulier, méprisant, capricieux, ne croyant ni à sa propre inspiration, ni à son byronisme. Mais s'il avait cessé d'être préoccupé de son type de russe, tourmenté par l'européanisme, il aurait trouvé sa voie comme Pouchkine. Il serait allé droit, lui aussi, à la vérité nationale. Il y a de cela chez lui de précieuses indications. Mais la mort l'a arrêté en route. Dans tous ses vers, on le voit chercher le vrai. Il se trompe souvent, au point de paraître mentir, mais il le sent lui-même et en souffre. Dès qu'il touche au peuple, il est clair, lumineux. Il aime le soldat russe et vénère le peuple. Il a écrit une chanson immortelle, celle du jeune marchand Kalachnikov devant le tsar Ivan le Terrible. Vous souvenez-vous aussi de l'esclave Chibanov? C'était l'esclave du prince Kourbski, un émigré russe du XVIe siècle, qui envoyait à ce même tsar Ivan des lettres presque injurieuses de l'étranger. Après en avoir écrit une, il appelle son esclave Chibanov, lui ordonne de partir pour Moscou et de remettre la lettre au tsar lui-même. Sur la place du Kremlin, Chibanov arrête le tsar qui sortait de l'église entouré de sa garde et lui remet la missive du prince Kourbski. Le tsar lève son bâton à pointe ferrée et en donne un coup sur le pied de Chibanov. Et s'appuyant sur le bâton, il se met à lire la lettre. Bien qu'il ait le pied transpercé, Chibanov ne bronche pas. Cette figure de l'esclave russe semble avoir attiré Lermontov. Son Kalachnikov parle au tsar sans reproche, sans invective, pour le favori qu'il a tué. Sachant que le dernier supplice l'attend, il avoue tout. Je le répète, si Lermontov avait vécu plus longtemps, nous aurions eu un grand poète au fait de l'âme du peuple, un vrai Jérémie des malheurs du peuple. Mais c'est à Nekrassov que l'on a donné ce nom. Certes, je n'égale pas Nekrassov à Pouchkine. Pour moi, il n'y a pas de comparaison possible. Pouchkine est comme un soleil qui a éclairé toute notre compréhension russe. Nekrassov n'est après lui qu'une petite planète sortie du grand soleil. Il n'y a plus à parler là de supériorité ou d'infériorité. Nekrassov pourra fort bien se survivre. Il l'a entièrement mérité, et j'ai dit pourquoi il a profondément aimé le peuple russe. Et c'est d'autant plus remarquable qu'il a surtout vécu entouré de gens infatués à l'Europe, de gens qui n'ont jamais approfondi l'âme russe, ni étudié ce qu'elle attend et ce qu'elle exige, de gens qui regardent notre élan vers le peuple comme un mouvement rétrograde. Et Nekrassov a été influencé par eux. Mais il avait dans l'âme une force singulière qui ne l'abandonna jamais. Elle venait de son amour passionné pour le peuple qu'il a tant aimé, qu'il a presque inconsciemment deviné cette vérité populaire sur laquelle j'insiste. Même conscient, j'admets qu'il aurait pu se tromper en beaucoup de choses. N'est-ce pas lui qui s'est écrié en contemplant inquiètement le peuple russe affranchi du servage? Mais est-il heureux, le peuple? Son cœur lui avait fait comprendre la douleur du peuple. Mais si on lui avait demandé ce qu'il fallait souhaiter à ce peuple, peut-être aurait-il donné une réponse inexacte ou même pernicieuse. On ne peut pas le lui reprocher. Le sens politique chez nous est un don extrêmement rare. Mis par son cœur, par sa belle et forte inspiration poétique, il s'est souvent rapproché du fond intime du peuple. À ce point de vue, il a été un poète populaire. Tous ceux qui sortent du peuple avec une petite instruction comprendront beaucoup de choses dans les poèmes de Nekrassov. La question est de savoir s'il est compréhensible pour le peuple presque illettré. Je ne le crois pas. Que comprendra un moujik à ses chefs-d'œuvre, chevalier pour un moment, le silence, les femmes russes. Même son « grand flas », qui est peut-être compréhensible, n'aura pourtant pas une action populaire, parce que c'est une poésie qui ne sort que trop indirectement du peuple. Mais que pourra penser un paysan du puissant poème « Sur le Volga » ? C'est bien trop byronien. Non. Nekrassov, malgré sa compréhension du peuple, ne s'adresse vraiment qu'à la classe intelligente. Et cela a pu se voir dans tous les articles qui ont parlé de lui après sa mort. Chapitre 3. Le poète et l'homme. Tous les journaux ont insisté sur certains esprits pratiques de Nekrassov, sur ses défauts, ses vices même, ajoutant que, grâce à quelque duplicité, il ne nous laissait qu'une image un peu trouble de lui-même. Certaines publications ont parlé de son amour pour le peuple et des journaux dont souffre l'intelligence russe. Moi, je crois que dans l'avenir, le peuple connaîtra Nekrassov. Il comprendra alors qu'il y a eu un bon noble russe qui s'est attendri sur ses malheurs et qui, au jour de tristesse, est allé vers lui. L'amour pour le peuple n'a peut-être en effet été chez Nekrassov qu'une issue à ses douleurs personnelles. Mais avant de rien dire des douleurs personnelles du poète, je veux expliquer certains côtés de l'homme. Chez Nekrassov, l'homme et le poète sont intimement mêlés l'un à l'autre. Ils ont si bien réagi l'un sur l'autre qu'en parlant du poète, il faut s'occuper du citoyen. Ceux qui lui consacrent des articles ont toujours l'air de vouloir l'excuser. De quoi ? Quel besoin peut-il avoir de notre indulgence ? On prononce à chaque instant cette expression « d'esprit pratique ». On veut dire par là sans doute qu'il possédait l'art de bien faire ses affaires. Et en effet, les justifications pleuvent aussitôt. Il a beaucoup souffert dès l'enfance. Adolescent, il a connu encore à Pétersbourg des jours difficiles, abandonné, sans gîte. Il a eu des quantités de chagrins et d'ennuis, et il n'y a pas à s'étonner que l'esprit pratique lui soit venu d'assez bonne heure. D'autres vont plus loin et insinuent que sans cet esprit pratique, Nekrassov ne fut jamais parvenu à faire paraître sa revue. On semble vouloir laisser entendre qu'il n'a atteint de bon but que par des moyens fâcheux, et cela à propos d'un homme comme Nekrassov qui a su émouvoir tous les cœurs, exciter l'enthousiasme ou l'attendrissement avec ses beaux vers. Tout cela est dit pour l'innocenté, bien entendu, mais je crois que Nekrassov n'a pas besoin d'être défendu si énergiquement. Ce genre d'excuse a toujours quelque chose d'humiliant pour celui que l'on justifie avec tant d'empressement. On a l'air de dire que ce même poète qui, la nuit, aurait écrit les plus admirables vers et émus que l'on puisse imaginer, se hâtera, le matin venu, d'essuyer ses armes pour nous rejouer quelques jolis tours avec son esprit pratique. Ces beaux vers auront été composés très froidement, et quand on viendra nous demander qui nous venons de conduire au cimetière, nous devrons répondre « le représentant le plus éclatant de la doctrine de l'art pour l'art ». Eh bien non, cela n'est pas vrai. Nous venons de perdre non pas un froid adepte de l'art pour l'art, mais un vrai poète, dont les souffrances populaires déchiraient très réellement le cœur, un martyr de soi-même. Il vaut mieux expliquer franchement les choses, afin de dégager nettement la personnalité du défunt, telle qu'elle fut. Il importe qu'il ne demeure plus aucun malentendu à son sujet et qu'on ne puisse plus souiller une noble mémoire. Personnellement, j'ai assez peu connu la vie pratique de Nekrassov. Je n'aborderai donc pas le côté anecdotique de son existence. Je le pourrais d'ailleurs, que je ne le ferai pas. Ayant les plus fortes raisons pour savoir que ce que l'on a raconté sur lui mérite tout au plus d'être qualifié de potin. Je ferai même plus. Ma conviction est que la moitié ou les trois quarts des histoires qui courent sur lui sont de purs mensonges. Un homme aussi en vue que Nekrassov ne pouvait pas manquer d'ennemis. Que peut-il y avoir de vrai dans tout cela? Sans doute il y a eu quelques moments regrettables dans sa vie. Ou alors, que signifieraient ces gémissements, ces cris, ces larmes, ces aveux, ces « je suis tombé », cette confession passionnée faite à l'ombre de sa mère? Il s'est flagellé lui-même jusqu'à la torture. Voici des vers qui jettent un jour singulier sur l'une de ses préoccupations. Le vent soufflait, il pleuvait, quand du gouvernement de Poltava j'arrivais dans la capitale. J'avais à la main un long bâton, auquel était accroché un sac vide. J'avais sur le dos une pauvre fourrure de mouton, dans ma poche 15 groches. Sans argent, sans nom. J'étais petit de taille et ridicule à voir. Mais 40 ans se sont passés et j'ai 1 million dans ma poche. Le million. Est-ce là la démoniaque obsession de Nekrassov? Eh quoi? Aimait-il tant l'or, le luxe, le plaisir? Et est-ce pour cela qu'il est tombé dans l'esprit pratique? Non, ce ne fut pas ce démon qui l'obséda. Disons tout d'abord que c'était le démon de la fierté et non pas celui de l'avarice. Il éprouvait seulement le besoin de posséder quelque aisance afin de pouvoir vivre à l'écart, mettre un mur entre lui et les autres hommes et ne regarder que de loin leur lutte perverse. Je crois que ce besoin exista déjà dans l'enfant de 15 ans, qui se trouva sur le pavé de Pétersbourg après s'être presque enfui de chez son père. Si jeune encore, son âme était blessée. Il ne voulait pas rechercher de protecteur. Ce n'était peut-être pas encore cette méfiance des hommes qui se glissa pourtant de bonne heure en lui. Ce n'était qu'un instinct. Admettons, se disait-il sans doute, admettons qu'il ne soit pas aussi méchant et perfide qu'on le raconte. Mais je crois que sans méchanceté aucune, il vous perdrait s'il y allait de leur intérêt. C'est alors que commencèrent les rêves bizarres de Nekrassov. Qui sait si ce verre... Et j'ai 1 million dans ma poche. Il ne le composa pas dans la rue en arrivant à Pétersbourg. Il ne voulait dépendre de personne. J'avoue que ce souci n'était peut-être pas digne de l'âme de Nekrassov, cette âme qui se trouva si facilement un écho en elle pour tout ce qui était beau et sain. Il semble que des hommes comme lui devraient pouvoir se mettre en route pieds nus et mains vides, riches seulement de ce qu'ils portent dans leur cœur. Leur idéal ne saurait être l'or. L'or, c'est la brutalité, la violence, le despotisme. L'or ne devrait être un idéal que pour la foule des faibles, des timides, que Nekrassov lui-même a tant méprisé. Qu'ont-ils à faire de l'or, ceux qui chantent comme lui? « Mène-moi au camp de ceux qui périssent, pour cette grande œuvre d'amour. » Mais le démon de la fierté resta en lui, et il paya sa faiblesse envers l'intrus de souffrances qui durèrent toute sa vie. Je ne parlerai pas des bonnes œuvres de Nekrassov, il n'en disait jamais un mot, mais elles furent néanmoins. Bien des gens commencent à témoigner de l'humanité, de la bonté apitoyée de cette âme pratique. Monsieur Souvorine en a déjà cité quelques traits. On me dira que je veux trop facilement réhabiliter Nekrassov. Non, je ne le réhabilite pas. Je cherche à expliquer et crois pouvoir le faire de façon concluante. Chapitre 4. Un témoin en faveur de Nekrassov. Hamlet s'étonnait de voir les larmes de l'acteur qui, en déclamait son rôle, pleurait une certaine Hécube. « Que lui importe cette Hécube ? » demandait le prince. La question suivante peut se poser. Notre Nekrassov était-il lui aussi un acteur ? Était-il capable de pleurer ce dont il se priva lui-même, d'exprimer sa douleur en des vers d'une beauté immortelle et de se consoler le lendemain rien qu'en se délectant de la beauté de ses vers? Envisageait-il ces admirables vers comme un moyen d'acquérir de l'argent et de la gloire? L'angoisse du poète, au contraire, ne demeurait-elle pas aussi complète après s'être exprimée, peut-être même aggravée par ce qu'il y avait de vivant et de poignant dans sa poésie? Il retombait à ses égarements, soit... Mais acceptait-il d'un cœur paisible sa déchéance? Ses gémissements et ses cris poétiques ne sortaient-ils pas plutôt de son repentir? Ne voyait-il pas clairement ce qui lui coûtait le démon qui était en lui et de quel prix il payait ce qu'il recevait de cet ennemi? Pouvait-il momentanément se réconcilier avec ce démon quand il voulait justifier son esprit pratique en causant avec ses amis? Ou même, cette réconciliation n'était-elle pas complète et durable? Ou plutôt, Ne souffrait-il pas plus encore après ces conversations, et ne ressentait-il pas un redoublement de remords? Comment résoudre ces questions? Je crois qu'il ne nous resterait qu'à le blâmer de ne pas s'être donné la mort, puisqu'il n'était pas de force à vaincre ses passions. Mais de quel droit nous érigerions-nous en juge? Cela serait assez ridicule. Toutefois, le poète qui a écrit « Tu peux ne pas être poète, mais tu dois être citoyen » a comme reconnu aux hommes le droit de le juger en tant que citoyen. Et cependant, nous aurions honte de le juger. Comment vivons-nous nous-mêmes? Seulement voilà. Nous ne parlons pas de nous tout haut au public. Nous cachons notre ignominie et nous en accommodons en notre fort intérieur. Telles actions font pleurer Négrassov qui, nous, ne troublerait même pas une minute. Nous ne connaissons ses chutes que par ses propres vers. S'il n'avait pas parlé lui-même, tout ce que l'on raconte sur son esprit pratique n'eût jamais été su. Il faut bien dire que pour un homme si pratique, il n'était guère malin d'aller publier ses repentirs. Ne serait-ce pas une preuve de son manque absolu d'esprit pratique? En tout cas, il y a un témoin qui peut déposer en faveur de Négrassov, et ce témoin est le peuple qui témoigne pour lui. Pourquoi donc un homme pratique irait-il s'emballer pour le peuple? Les autres essayent de faire un métier lucratif. Lui se serait contenté de pleurer sur le peuple. Ce n'était qu'un caprice, mais qu'est-ce qu'un caprice qui dure toute la vie d'un homme? Il se faisait des rentes avec ses attendrissements sur le peuple? Je crois qu'il est impossible de simuler l'amour ardent que traduisent les vers de Négrassov. Dans tous les moments pénibles de sa vie, il se tourna vers le peuple. Il l'aimait, de toute son angoisse et de toute sa douleur. Comprenez cela, et tout Négrassov vous devient clair, aussi bien l'homme que le poète. En mettant son talent au service des pauvres gens, il lui semblait expier un peu. L'essentiel est que ses sympathies ne sont pas allées à ce qu'aimaient et vénéraient les hommes de son entourage. Elles allaient aux affligés, aux souffrants, aux humiliés. Quand il était pris de dégoût pour la vie qu'il menait, il partait pour son village natal, se prosternait sur les dalles de sa pauvre église et trouvait la guérison de tous ses maux. Il n'aurait pas choisi ce genre de consolation s'il n'y avait pas cru. S'il n'a rien trouvé dans sa vie de plus digne d'amour que le peuple, c'est qu'il avait compris que la vérité est dans le peuple, que c'est en lui qu'elle se conserve. Si ce n'était pas tout à fait consciemment qu'il s'agissait alors, si ses opinions habituelles ne reflétaient pas ses sentiments, du moins ses sentiments demeuraient dans son cœur. Dans le moujik vicieux dont l'image humiliée et humiliante le tourmentait alors, il voyait quelque chose de vrai et de saint qu'il ne pouvait ne pas admirer, ne pas comprendre de tout son cœur. C'est pour cela que je l'ai mis au rang de ceux qui ont reconnu la vérité populaire. C'était là qu'il trouvait la consolation que ne lui apportaient ni les raisonnements subtils, ni les paradoxes, ni les justifications pratiques. S'il n'avait pas eu cela, il aurait souffert sans interruption toute sa vie. Quel juge pouvons-nous être si nous pensons cela? Quels accusateurs? Négrassov est un type russe historique, un de ces grands exemples de dualisme d'âme qui se rencontrèrent surtout à notre triste époque. Mais cet homme est resté dans nos cœurs. Ses élans de poète ont été souvent si sincères et si spontanés. Sa sympathie pour le peuple est si subitement franche qu'elle lui assure une place très haute parmi les poètes. Quant à l'homme, son amour des humbles l'acquitte, s'il a besoin d'être acquitté.